Bonjour à tous, bienvenue, bon appétit, il est midi et demi.
Europe Midi Week-end.
Thierry Dagiral.
30 minutes d'information jusqu'à 13h et plusieurs dossiers que l'on va développer ensemble en ce dimanche 5 décembre. Gros dimanche politique avec le premier meeting du candidat Zemmour à Villepinte près de Paris. Qui seront ses soutiens? Nous serons sur place. Et puis, analyse de Bernard Sananès de l'Institut ELAB, mon invité. Nous reviendrons avec lui sur la victoire hier de Valérie Pécresse au Congrès des Républicains. La vaccination des enfants de 5 à 11 ans au menu du Conseil de défense sanitaire demain matin à Matignon. Quelles nouvelles mesures peut prendre l'exécutif? Réponse dans Europe Midi. Jean-Rémy Girard du syndicat national des lycées et collèges nous rejoindra dans 10 minutes. Notre vie quotidienne avec les 10 ans ce dimanche de la plateforme Uber et le boom des entreprises de bricolage, une habitude gardée par les Français depuis le premier confinement. Mais d'abord, voyons la tendance météo. Valérie Darmon.
Eh bien Thierry, du sel gris à couper au couteau sur les Hauts-de-France, le bassin parisien, les Ardennes, la Champagne, la Normandie, avec un petit peu de chance, quelques éclaircies dans cet amas nuageux. Ciel pluvieux et neigeux à partir de 400 mètres depuis l'Alsace jusque sur le Lyonnais et le Massif central. Un tout petit peu moins nuageux depuis Brest jusque Périgueux. Et du ciel bleu du vrai entre Brest et Royan.
Météo complète juste avant 13h. 16h cet après-midi, Éric Zemmour prononcera son premier discours officiel de candidat, premier meeting donc, ça se passe à Villepinte, en Seine-Saint-Denis, près de Paris. On va bien sûr regarder qui est dans la salle, quels sont ses soutiens. Victor Chabert, c'est vous qui suivez la campagne d'Éric Zemmour pour Europe 1. Vous êtes en direct de Villepinte, dans la salle, comment ça va se passer ce premier meeting alors?
Oui, alors la première chose que je peux vous dire, c'est qu'il y a déjà un peu de monde ici à Villepinte. Les portes ouvrent au public dans une demi-heure. Vous l'entendez peut-être derrière moi, les dernières répétitions sont toujours en cours. 15 000 chaises sont disposées dans la salle avec dessus des drapeaux français, des affiches Zemmour président. Il y a également un gros dispositif lumineux aux couleurs bleu, blanc, rouge. L'enjeu est gros pour le néo-candidat. Il doit se présidentialiser, montrer que sa mue est faite. Le meeting débute vers 15h15. Le discours d'Éric Zemmour, vous l'avez dit, aux alentours autour de 16h, il l'a travaillé lui-même, il est en train encore de le répéter. On va bien évidemment écouter attentivement ce qu'il dit, il doit dévoiler le nom de son parti et les grandes lignes de sa candidature, mais on regardera aussi qui est présent autour de lui dans la salle. Ses soutiens, pour l'instant, un seul est relativement connu, le président de VIA, Jean-Frédéric Poisson.
Victor, il y a un gros dispositif de sécurité.
Oui, sécurité maximum. Beaucoup de policiers ici à Villepinte, ils sécurisent dès la sortie du RER. Les forces de l'ordre jugent cette journée à risque. Ils craignent notamment que des militants antifascistes viennent perturber ce rassemblement avec de potentielles violences. Plusieurs manifestations sont prévues également à Paris, notamment à l'initiative de syndicats, d'associations antiracistes et de militants d'extrême gauche.
Merci beaucoup Victor. Victor Chabert en direct du parc des expositions de Villepinte, près de Paris. Bonjour Bernard Sananès.
Bonjour Thierry Dagiral.
Président de l'Institut ELAB, bien sûr. Éric Zemmour joue gros cet après-midi après une semaine compliquée, une candidature éclaboussée, on s'en souvient par cette vidéo dont on a beaucoup évoqué, surtout la forme.
Oui, tout à fait. Il joue gros parce que c'est son premier meeting. On ne l'a jamais vu dans cette forme de communication, mais il a innové finalement avec sa déclaration de candidature. Et il va y avoir pour lui plusieurs objectifs. Le premier, c'est de redonner de la dynamique à sa campagne. Et on vient de le dire dans votre reportage, on va tester cette dynamique à la fois aux personnalités un peu connues qui seront présentes, mais aussi et surtout à la capacité à mobiliser. Vous vous en souvenez, Emmanuel Macron, quand il s'était lancé en campagne en 2016, le 10 décembre, à la porte de Versailles, il y avait un premier meeting avec 15 000 personnes, et ça avait montré, matérialisé cette mobilisation. Deuxième objectif pour Zemmour, c'est de dépasser les constats. Il faut répondre à la candidate LR, Valérie Pécresse, qui hier ou ce matin, dans son interview, disait « Les diviseurs n'ont jamais été les sauveurs, les marchands de peur n'apportent pas de solution ». On voit bien que si les constats qu'il fait sont partagés par une partie de l'opinion, ils sont en attente des solutions concrètes qu'il propose. Et puis, troisième objectif, se présidentialiser. Élysée. Il y a un quart des Français seulement qui pensent qu'il a les qualités nécessaires pour être président de la République. Et quand on regarde, alors que la droite le crédite d'une image meilleure que le reste des Français, eh bien sur cette question de la présidentialité, ce n'est pas le cas.
Bernard Sananès, évoquons ensemble les Républicains. Valérie Pécresse, la candidate LR, était hier soir sur TF1. Voilà ce qu'elle répondait à un rapprochement avec Éric Ciotti.
Vous ne pourrez sans doute pas ignorer la ligne plus à droite d'Éric Ciotti. Est-ce que vous allez garder certaines de ses propositions phares? Je pense notamment à la création d'un Guantanamo à la française, de la priorité nationale pour les emplois.
Non, pas ces propositions-là. Mais
pourquoi elles sont trop radicales pour vous?
Parce que c'est mon projet qui a été choisi par les militants, c'est ma ligne.
Bernard Sananès, ça va être compliqué de rassembler pour Valérie Pécresse?
Écoutez, peut-être ce sera plus facile qu'en 2016, pour une raison essentielle. La droite, et tous ses leaders le savent, c'est qu'elle joue sa survie. Pour les élus, pour les militants, être éliminé une nouvelle fois du second tour, je ne dis même pas gagner, mais être une nouvelle fois du second tour, ce serait dès 20h01 son explosion et sa disparition. Et ça, tous les leaders de droite le savent. Valérie Pécresse, elle doit bien sûr réussir à confirmer ce qu'elle a dit dans sa campagne. Elle a dit « je serai le barycentre de la droite, je serai à l'équilibre finalement entre cet électorat à la droite de la droite et cet électorat au centre droit ». Et ça, ce n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible pour elle. Rappelons que la dernière fois que c'est arrivé, c'était Nicolas Sarkozy en 2007. Là-dessus, pour atteindre cet objectif, Éric Ciotti, je dirais, est plus un atout qu'un handicap. Il peut fixer une partie de cet électorat de droite qui considère que les questions identitaires, que les questions d'immigration, que les questions de sécurité sont majeures, qu'elles passent avant toutes les autres. Grosso modo, ils peuvent tous les deux, Valérie Pécresse et Éric Ciotti, se partager un peu les rôles. Mais bien sûr, Valérie Pécresse doit aussi envoyer des messages à ses électeurs de centre-droit, montrer que toute la droite ne se retrouve pas dans les idées portées notamment par Éric Zemmour ou par Marine Le Pen.
Mais on a vu qu'Éric Zemmour et Marine Le Pen ont déjà lancé des appels à ceux qui ont voté Éric Ciotti. Restez avec nous, Bernard. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, était l'invité ce matin du grand rendez-vous européen CNews Les Échos. Voilà ce qu'il disait de la candidate Pécresse.
Je pense que sa victoire est une bonne nouvelle pour la démocratie, une bonne nouvelle pour le débat démocratique. Moi, je préfère que ce soit une fraction plus raisonnable des Républicains qui l'ait emporté. C'est la victoire d'un parti qui est profondément fracturé. J'ai vu dans la campagne des propositions qui sont totalement incompatibles entre Éric Ciotti et Valérie Pécresse.
Est-ce qu'on peut comprendre que, de votre point de vue, Valérie Pécresse est plus proche en dernière instance d'Emmanuel Macron que d'Éric Ciotti?
C'est possible. Mais vous lui poserez la question.
Il y a quelques semaines, elle aurait pu très bien être, peut-être, dit-on, un jour Premier ministre d'Emmanuel Macron.
Nous verrons ce que l'avenir nous dira. C'est un adversaire.
Vous ne l'expliquez pas ?
Elle aurait sa place dans votre maison.
J'ai appris dans ma vie politique à ne rien exclure.
Voilà, Bernard Sananès, finalement, la victoire de Valérie Pécresse, on peut dire que cela arrange le camp macroniste ?
Je ne crois pas. Je pense que c'est une personnalité d'abord nouvelle qui va émerger dans la campagne. Et pendant quelques semaines, au moins, elle va capter l'image de la nouveauté. C'est une femme et c'est la première fois que la droite présente une candidate. Elle peut allier à la fois une forme de discours dur sur le régalien, on en a parlé tout à l'heure par rapport à Éric Zemmour, mais elle peut aussi incarner une forme de crédibilité sur l'économie, la dette, la bonne gestion. Donc ce ne sera pas en tout cas une candidate facile pour Emmanuel Macron, et on verra dans les prochaines semaines, bien sûr, si la candidate investie par le Parti des Républicains réussit elle aussi à créer une dynamique. Pour l'instant, la droite n'était pas du tout qualifiée pour le second tour. On va voir très vite dans les prochains sondages si elle arrive à fixer cet électorat. Aujourd'hui, c'est quoi le problème de la droite? Il y a un problème arithmétique. Il y a 4 électeurs sur 10 qui avaient voté François Fillon qui disent qu'ils revoteraient pour un candidat de droite. 20% voteraient pour Emmanuel Macron, 23% pour Éric Zemmour. Et donc cette droite peut être écartelée, c'est le cas aujourd'hui. Elle peut aussi se rassembler si elle y parvenait. À ce moment-là, la dynamique et la qualification pour le second tour lui seraient possibles. Pour l'instant, rappelons-le, et très nettement, c'est Marine Le Pen qui est installée sur ce qu'on peut appeler en résumé le deuxième fauteuil du second tour.
Décryptage toujours très clair ce midi sur Europe 1 du président de l'Institut ELA, Bernard Sananès. Merci à vous Bernard, merci beaucoup. L'autre gros meeting du jour, c'est celui de Jean-Luc Mélenchon. Il prendra la parole, lui, à 14h à la Défense, près de Paris. Le but, là, est de lancer son grand mouvement, l'Union Populaire, une maison commune destinée à abriter des personnalités de gauche au-delà de sa famille politique. Alexis de La Fontaine, il veut finalement s'affirmer comme le grand leader de la gauche française.
Oui, sa mission aujourd'hui, c'est une démonstration de force. Le candidat insoumis assume. On veut montrer qu'on est là, il n'y a pas que Zemmour. Faisant allusion au meeting de son opposant qui se tient à seulement 20 km, mais le tribun de gauche ne s'en prend pas seulement à la droite. Il veut démontrer que dans son camp, seul lui est capable de réunir plus de 3000 personnes et il veut le faire savoir. Son entourage attaque, Hidalgo n'a pas réussi à réunir plus de 100 personnes dès sa tournée en province et Jadot n'a pas encore organisé un seul meeting. La stratégie de chacun à gauche est claire. Pas de primaire, mais les sondages pour départager les candidats. Mélenchon, lui, en est bien conscient. Aujourd'hui, à 10%, il doit rester en tête à gauche pour capter le vote utile lors du premier tour de la présidentielle. Cette performance, il l'a déjà réussi en 2017. Il avait alors rassemblé 20% des votants. Trop insuffisant à l'époque pour se qualifier au second tour, mais le leader des Insoumis en est persuadé. Je cite, c'est un trou de souris, mais ce sera suffisant en 2022.
Alexis de La Fontaine du service politique d'Europe 1. Voilà ce que l'on pouvait dire ce midi sur ce dimanche politique crucial à 4 mois de la présidentielle. Analyse et débat ce soir dans Europe Soir autour de Pierre de Villeneau. À suivre, ce sera le gros sujet de demain. Un nouveau conseil sanitaire demain matin. Quelles pourraient être les mesures annoncées pour tenter de maîtriser cette 5e vague de Covid? Les hypothèses de travail et les attentes de Jean-Rémy Girard du SNALC, le syndicat des collèges et lycées. A tout de suite sur Europe 1.
Europe Midi Week-end. Thierry Dagiral.
Quasiment une heure moins le quart, la suite de votre édition de la mi-journée sur Europe 1. Demain matin, nouveau conseil de défense sanitaire. Faut-il s'attendre à de nouvelles mesures annoncées dans la foulée pour tenter de maîtriser cette 5e vague du Covid? Bonjour Zoé Pallier.
Bonjour Thierry.
Zoé, à cette heure-ci, qu'est-ce qui est sur la table?
Alors, a priori déjà, pas de confinement généralisé ni de couvre-feu parce qu'il y a une différence majeure hein, par rapport à l'an dernier, c'est la vaccination. Et ce que montre l'Institut Pasteur, eh bien, c'est qu'aujourd'hui, renforcer les gestes barrières suffit en fait à protéger le système hospitalier. Le gouvernement devrait donc avant tout appeler à la responsabilité, estime Benjamin Davido. Il est infectiologue à l'hôpital de Garches.
Il faudrait probablement augmenter et inciter fortement le télétravail. Et donc, si on dit qu'on modifie les jauges, qu'on fait un effort sur ce qu'on appelait la bulle sanitaire, souvenez-vous, on disait il faut éviter d'être à plus de 6 jusqu'à 10 lorsqu'on est vacciné. Ça, je pense que ce sont des mesures qui sont entendables.
Zoé, au cœur des discussions demain, les contaminations qui flambent, on le sait, chez les enfants.
Hein. Oui, et une question prioritaire, celle de la vaccination pour tous les enfants de 5 à 11 ans. La campagne pourrait débuter dès janvier. En revanche, pas d'annonce a priori hein, sur la fermeture des écoles avant les vacances de Noël. La mesure ne fait pas consensus. Écoutez Florence Comte, elle est porte-parole du syndicat des directeurs et directrices d'école.
Si ça pouvait solutionner tout, pourquoi pas? Sauf qu'en fait, la semaine écoulée dans mon école, des parents qui ne savaient pas quoi faire de leurs enfants parce qu'ils devaient travailler, les ont confiés à des amis. Et du coup, ils sont devenus positifs dans l'enfant de la famille. Donc c'est compliqué.
Alors même s'il n'y a pas de fermeture pour l'instant, le gouvernement surveille ça évidemment comme du lait sur le feu. Et la stratégie annoncée demain peut très vite évoluer.
Explication signée Zoé Pallier. Merci. Bonjour Jean-Rémy Girard.
Bonjour.
Vous êtes le président du syndicat national des lycées et collèges. Vous constatez combien de classes fermées ce week-end sur l'ensemble du territoire?
Alors, lycée, collège et école également. Ouais. Les classes fermées sont en baisse par rapport à la semaine dernière, mais en fait, c'est tout à fait logique. Ça ne veut pas du tout dire que le virus circule moins. Au contraire, il circule plus. C'est parce qu'on a changé, vous le savez, le protocole sanitaire à l'école primaire, ce qui fait qu'on ne ferme plus la classe dès le premier cas. Donc, ça a entraîné une baisse des fermetures. Il y en a encore près de 5000 hein, quand même. C'est pas rien du tout. Mais effectivement, le nombre de classes fermées ne suit plus en fait la dynamique de l'épidémie qui, elle, en revanche, augmente extrêmement vite et particulièrement à l'école primaire.
Jean-Rémy Girard, on constate, on vient de le dire, une envolée du taux d'incidence très élevé donc, chez les jeunes, notamment dans les écoles primaires, vous le disiez. Selon vous, il faudrait mettre en vacances les scolaires plutôt que prévu, comme le fait la Belgique par exemple ?
Alors, je ne suis pas une autorité sanitaire, donc je ne peux pas vous dire si ça résout tous les problèmes. Nous, ce que l'on a constaté, c'est que on a trouvé plus que bizarre que, alors même que la 5e vague est de plus en plus forte et que l'on a des mesures plus contraignantes en population générale, on a finalement assoupli le protocole sanitaire dans les écoles primaires. C'est-à-dire qu'effectivement, avant, on fermait la classe au premier cas. Désormais, ce n'est plus le cas. Les parents doivent faire tester leur enfant quand il y a un cas positif et ils doivent donner le résultat du test et leurs enfants reviennent à ce moment-là, ce qui interdit pas qu'ils se révèlent positifs au bout de 3 ou 4 jours d'ailleurs, et ce qui interdit pas de refaire tester les enfants. C'est très compliqué, c'est d'ailleurs très compliqué à gérer administrativement, et on n'est pas sûr que cette expérimentation qui avait été menée à une époque où le virus circulait beaucoup moins, fonctionne très bien dans une période de circulation très très active du virus dans les écoles.
Justement, ces changements incessants, comment réagissent les profs de ces collèges et lycées ?
Alors, les professeurs, c'est surtout des écoles, hein, parce que dans les collèges et les lycées, le protocole a pas trop changé. On essaye de faire du contact tracing un peu comme on peut, hein, depuis le début. Mais dans les écoles, les collègues ne comprennent globalement pas, hein, puisqu'ils voient bien qu'il y a de plus en plus de cas. Ils nous remontent, hein, d'ailleurs, qu'il y a de plus en plus de cas. Et ils ne comprennent pas pourquoi, effectivement, le protocole est, de leur point de vue, hein, en tous les cas, moins sécurisé qu'avant. Donc il nous semble que là, on a voulu aller très très vite dans la généralisation de quelque chose qu'on a testé sans d'ailleurs avoir les résultats officiels, pour arranger le milieu socio-économique, ce qu'on peut comprendre, parce qu'une classe fermée, c'est compliqué à gérer pour les parents, on le sait très bien. Néanmoins, est-ce que en pleine cinquième vague, c'était le moment? On en doute très fortement.
Jean-Rémy Girard du Syndicat national des lycées et collèges, grand merci à vous monsieur, merci beaucoup.
Europe Midi Weekend.
Thierry Dagiral.
1h bientôt moins 10 sur Europe 1. On va s'intéresser à notre vie quotidienne à présent avec cette révolution dont on fête ce dimanche la 10e année. C'était en 2011, la plateforme Uber débarquer en France en proposant de réserver une course via une application. Cela a changé la manière de se déplacer en ville. Et pour les chauffeurs, cela a permis de trouver une nouvelle clientèle, comme ce pionnier l'a raconté à Aurélien Fleureau.
En 2011, Zaki commence à travailler comme chauffeur privé. Et dans son entreprise, Service Prestige, arrivent quelques Américains qui cherchent des volontaires pour tester un nouveau service. Parmi eux, un certain Travis Kalinick, cofondateur d'Uber. Et très vite, Zaki se rend compte que cette application va bouleverser son métier.
J'ai été un des tout premiers chauffeurs Uber, donc on nous a expliqué comment utiliser l'application. Et ensuite, on l'a testé sur le terrain. Je me souviens que ma première course, ça a été quelque chose d'assez extraordinaire, dans le sens où, par le biais du téléphone, on reçoit une demande. Vous acceptez la demande et là, vous voyez apparaître sur l'application l'itinéraire. Vous n'avez plus qu'à vous laisser guider, quoi. Et c'était quelque chose d'extraordinaire à l'époque.
10 ans plus tard, Zaki, au volant de sa berline premium, travaille toujours pour Uber. Il a également constitué sa propre clientèle. En parallèle, il se satisfait de voir les relations avec les taxis plutôt apaisées, même si tout n'est évidemment pas encore idéal. Uber fait aussi des mécontents. Plus de 500 chauffeurs viennent même d'annoncer qu'ils vont lancer leur propre plateforme.
Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1. Notre vie quotidienne en Corse, c'est désormais plus qu'une tendance. 50% des Français bricolent régulièrement. C'est la nouvelle passion française et l'habitude est restée depuis le premier confinement. Maud Descamps, on dirait bien que ça va durer. Hein.
Oui, avec un chiffre d'affaires en hausse de 13% par rapport à l'an dernier, année qui était déjà exceptionnelle, le secteur du bricolage a le sourire et les bonnes habitudes prises par les Français s'installent durablement, observe Caroline Huppin, déléguée générale de la Fédération des magasins de bricolage, notamment grâce au marché de l'immobilier qui se porte particulièrement bien.
Il y a quand même une grande dynamique du marché immobilier. Donc, qui dit déménagement dit souvent travaux à la clé pour avoir un intérieur qui vous corresponde. Et tout ce qui va concerner la rénovation énergétique qui est très portée par le gouvernement et qui amènera sans doute aussi de nouveaux clients. Donc, on reste quand même très optimiste.
Les Français ont en effet été nombreux à se lancer dans les travaux de rénovation énergétique cette année. Plus de 600 000 dossiers de demande du dispositif MaPrimeRénov ont été déposés. C'est 4 fois plus que ce que le gouvernement avait prévu, des travaux qui ont coûté plus cher qu'en 2020. Avec la hausse des prix des matières premières et de l'énergie, le coût des travaux a augmenté, selon l'INSEE, de 4,8% cette année par rapport à l'an dernier.
Maud Descamps, le football à présent. Hier, Paris a concédé le nul à Lens, un partout. Et son dauphin marseillais a perdu face à Brest au Vélodrome, 2-1. La grosse affiche de ce soir, c'est Bordeaux-Lyon. Les Girondins sont 18e, les Lyonnais 10e, avec deux entraîneurs étrangers de renom qui, Jean-François Pérez, jouent très gros. Hein.
Oui, ils sont arrivés en France auréolés d'une carrière prestigieuse. Le Bordelais Vladimir Petkovic, qui avait éliminé la France de l'Euro cet été avec la Suisse, et le Lyonnais Peter Bos, architecte du renouveau de l'Ajax d'Amsterdam. Six mois après, leur trône vacille. À la tête du deuxième budget de Ligue 1, le Néerlandais est le plus exposé, mais l'entraîneur de l'OL n'a pas dit son dernier mot.
Ce matin, j'ai parlé avec les joueurs. J'ai dit mon vérité. Et je pense que ça c'était clair. Dans cette saison, il y a des moments difficiles pour toutes les équipes. Comme coach, je suis là pour aider l'équipe.
Pour l'instant, Boss est soutenu par ses dirigeants. C'est moins évident pour Petkovic. Le Suisse est plombé par sa défense. 37 buts encaissés, la pire de Ligue 1. On pourrait dire que l'effectif cosmopolite, avec 12 nationalités, n'aide pas à la cohésion. Mais le milieu de terrain Yacine Adli balaie l'argument.
Il ne faut pas se cacher derrière des excuses. Il faut qu'on prenne nos responsabilités. La langue du football, elle est très facile. Hein. Right, left, droite, gauche, izquierda, derecha, tout le monde comprend ça. Il n'y a pas de souci. Il faut qu'on soit plus en accord entre nous aussi.
Plus facile à dire qu'à faire. À Bordeaux, ils sont de plus en plus nombreux à craindre la relégation en Ligue 2.
Jean-François Pérez, chef du service des sports d'Europe 1. Match à suivre, bien sûr, ce soir dans Europe 1 Sport avec Lionel Rousseau. Allez, on termine en musique. Alors que cela fait 4 ans que Johnny Hallyday nous a quittés, on part à la découverte du spectacle Johnny Symphonic Tour. Les chansons du taulier avec un chœur d'une quarantaine de personnes. Le tout monté par le chef d'orchestre Yvan Cassard. Et rien que pour vous, Marie Jiquel a pu assister aux répétitions.
Il fallait au moins un chœur de 40 chanteurs pour égaler la voix puissante de Johnny. Ses volontaires, recrutés dans chaque ville de la tournée, ont réussi le casting et doivent désormais honorer sur scène les chansons de leur idole. Parmi eux, Damien et Corinne, 30 ans les séparent, Johnny les réunit.
Le concert hommage à Johnny, ça m'a pas mal intéressé parce que j'ai une famille très fan justement de Johnny, donc j'ai bercé là-dedans depuis tout petit.
Plus on chante de Johnny, plus on se rend compte de la difficulté des chansons. Vivre pour le meilleur, par exemple, ou L'envie, sont des chansons qui demandent beaucoup de tonus.
À la baguette, Yvan Cassard, la caution musique classique de Johnny, le chef d'orchestre a monté ce projet en réarrangeant les tubes du taulier pour les mettre au diapason d'un orchestre symphonique.
Il me parlait beaucoup de ça, et du cinéma, de son goût pour ça et son goût pour l'orchestre à sa manière. La puissance qu'il adorait. Donc ce projet, c'est juste un hommage.
Du Johnny en classique, comme une impression d'entendre de la musique sacrée.
Voilà, une tournée qui débute le 20 mai à Épernay. Ce sera le 8 et 9 juin, salle Pleyel à Paris. Nicolas Caro, comme chaque dimanche dans Europe Midi, vous nous proposez un bon livre à lire cet après-midi. Aujourd'hui, Nicolas, vous avez choisi « Nous sommes les chasseurs » de Jérémy Fell, c'est chez Rivage.
Exactement Thierry. Jérémy Fell que l'on avait laissé avec Elena, paru il y a 3 ans, un roman noir terrible et très bien fichu et surtout parfaitement écrit. Jérémy Fell est un jeune écrivain adepte des histoires qui font peur mais qui ne met pas de côté le style et l'invention littéraire.
Alors que raconte-t-il dans ce nouveau livre ?
Il y a plusieurs histoires, mais alors je vous préviens, ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça, mais en le lisant, je suis allé vérifier que la porte de chez moi était bien fermée, histoire vraie. Et pendant une scène de suspense, j'ai reçu un appel. Je vous jure, j'ai sursauté.
Ouais.
Parce que Jérémy Fell vous agrippe et vous emmène avec lui dans ces histoires de dingue où le mal prend une place importante sous différentes formes, sous la forme de Gabriel, par exemple. Ouais. Tenez, qui revient plusieurs fois. On le découvre dans une situation pourtant paisible et bucolique, dans une prairie, assis en tailleur avec un petit groupe. C'est le printemps, c'est chouette. Mais soudain, tout le monde sort une fiole et l'avale. Y compris Gabriel, mais lui avait remplacé le cyanure qui s'y trouvait par de l'eau et ensuite il observe tous les autres trépasser. C'était lui le gourou en fait et il voulait simplement voir à quel point il pouvait manipuler des gens. Il est content de lui et ensuite on le retrouve dans d'autres situations tout aussi terribles.
Effectivement, c'est effrayant.
Mais pas autant que la disparition de la famille Gruber basée sur une histoire vraie. On est au début du XXe siècle, une famille est retrouvée massacrée. Or, l'enquêteur chargé de l'affaire se rend compte en collectionnant les indices que le meurtrier a vécu dans la maison après les meurtres et en interrogeant le voisinage, il apprend que le patriarche de la famille soupçonnait quelqu'un ou quelque chose d'habiter chez lui, caché Par exemple, un jour, il était tombé sur des traces de pas dans la neige qui se dirigeaient vers sa maison, mais aucune trace qui en repartait. Bizarre, chaque histoire en amène une autre. À chaque fois, on se dit qu'on ne pourra pas y entrer aussi profondément que dans la précédente. Et puis si, beaucoup de talent, ce Jérémy Fell.
Eh bien voilà, c'est-à-dire en ce dimanche de décembre qui signe donc « Nous sommes les chasseurs », c'est chez Rivage. Merci beaucoup Nicolas. Votre invité dans La Voix est libre.
Émission spéciale avec Bernard Werber face aux auditeurs. Eh oui.
Les fourmis, mais pas que.
Ben, pas que.
Rendez-vous à 14h. Merci beaucoup, Nicolas. Nicolas Carreau.
Merci, Thierry.
Alors, il nous reste à voir le temps. Valérie Darmon, le ciel va rester cet après-midi très bouché sur presque toute la France.
Toujours de grosses chutes de neige sur les reliefs, particulièrement sur les Pyrénées occidentales cette fois. Dès 1100 mètres, 60 cm de neige sont attendus. Attention toujours au risque d'avalanche, non seulement sur le massif pyrénéen, mais aussi alpin. La neige qui continue de tomber depuis la façade est jusque sur l'Auvergne et Limousin à basse altitude, dès 400 mètres, et qui peut blanchir vos sols. Au nord, le ciel qui reste chargé avec des pluies ici ou là, entre la Normandie, les Hauts-de-France, le bassin parisien, les Ardennes, les nuages qui gagnent du terrain sur le nord de la Bretagne et le pays angevin ainsi que nantais au fil de l'après-midi, le vent qui continue de souffler sur les Landes à 80 km/h et non plus à 110 comme ce matin, tandis qu'il pleut abondamment sur le Pays basque, le soleil persiste sur les côtes atlantiques entre la pointe bretonne et l'estuaire de la Garonne, les maximales repartent à la baisse avec 3 à 6 degrés dans le nord-est et le massif central, 6 à 11 ailleurs, 11 à 14 vers la Côte d'Azur, 4 annoncés à Besançon par Météo France cet après-midi, 6 à Limoges et à Auxerre, 7 degrés à Paris, Lyon et Tarbes, 8 au Mans, 9 à Montauban et à Avignon ainsi que Nantes, et 11 degrés à Marseille.
Merci beaucoup Valérie Darmon. Dans un instant, Isabelle Morizet reçoit le chef étoilé Thierry Marx. Toutes les dernières informations, c'est dans un instant. À tout de suite sur Europe 1.
Europe Midi Weekend, midi 30, 13h.
Thierry Dagiral.